Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, dans 5-10 minutes, une discussion autour du droit d'auteur, les jeunes créateurs d'aujourd'hui et d'autres. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Ici même, prenez une chaise. Le triangle de la diversité musicale, les thématiques, le droit d'auteur, c'est pour aujourd'hui. Ça concerne pas mal de monde. Donc voilà, venez vous asseoir. Les invités sont là, ils vous attendent pour commencer. Voilà, alors je profite de l'arrivée de certains pour annoncer la discussion qui va commencer dans quelques instants. Une discussion autour du droit d'auteur, ça se passe ici, il y a quelques chaises, il y a des invités pour nous en parler. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour avant d'aller voir un concert ou quoi. Voilà, on va commencer d'ici moins d'une minute. Et donc, pour commencer, je propose de présenter nos invités. Alors, ils sont aujourd'hui au nombre de trois invités. Donc, pour ce premier débat qui se déroule dans le cadre du triangle, hein, puisque c'est plus ou moins un triangle ici, de la diversité musicale, où on vous propose diverses activités, dont des discussions. Aujourd'hui, la discussion portera sur les droits d'auteur. Et donc, on vous propose voilà, tout de suite de découvrir nos invités. Alors, première invitée, nous avons Caroline Kerr, ici présente. Alors, Caroline Kerr, bonjour.
Bonjour.
Et alors, tout simplement, est-ce que vous pourriez nous présenter la CRID, la CRID
Le CRID.
Le CRID, voilà.
C'est un mot masculin. Donc c'est le Centre de Recherche Informatique et Droit. C'est un centre de recherche qui est situé à Namur, qui fait partie de la faculté de droit des FUNDP. Et on travaille essentiellement donc, au CRID sur la confrontation entre le monde du droit et le monde de l'informatique et de la société de l'information. Alors en particulier, l'unité dans laquelle je travaille travaille sur la question... sur la confrontation entre le droit d'auteur et les nouvelles technologies. Et c'est notamment dans ce cadre qu'on a été amené à traduire les licences Creative Commons, qui sont donc un système de licences, une adaptation de l'open source, l'open access aux œuvres littéraires et artistiques autres que les logiciels pour lesquels au départ l'open source avait été élaboré. Et donc c'est à ce titre-là que j'interviens ici aujourd'hui pour donner quelques informations sur ce système de licence ouvert, très très intéressant pour les nouvelles formes de créativité. Voilà.
Très intéressant, donc merci Caroline. Alors un autre invité ici présent, Joël Ao. Donc, Joël, je crois que vous êtes lié à l'atelier rock, mais vous êtes également artiste.
Oui, disons que pour l'instant un petit peu en stand-by, mais effectivement pendant tout un temps je suis toujours en action, mais plus vraiment sur scène pour l'instant, donc auteur-compositeur, interprète, plus particulièrement en tout cas pour le moment programmateur dans une salle de concert qui est l'atelier Rockaoui.
Ok, merci. Donc troisième invité, Monsieur Dashley, qui vient de la SABAM. Est-ce que bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en résumé ce qu'est la SABAM ?
Et la SABAM, c'est une société de gestion collective de droits qui s'occupe de gérer les droits d'auteur de ses membres. Alors, c'est d'une part la perception des droits d'auteur. Lorsqu'il y a une diffusion des œuvres que nous représentons, donc disons dans notre jargon du répertoire belge et mondial que nous représentons, tant dans la musique que dans d'autres disciplines d'ailleurs, puisque nous sommes une société multidisciplinaire. On est une des 5 sociétés multidisciplinaires dans le monde et nous pensons qu'aujourd'hui que c'est un atout, très très important dans un monde numérique et un monde de plus en plus où les œuvres sont diffusées de multiples façons. Alors la perception des droits, c'est évidemment une chose très importante pour nos membres. Ils sont environ 30 000 Belges. Mais la répartition, évidemment, est tout aussi importante puisque nous redistribuons, c'est notre raison d'être, ces droits aux ayants droit. Donc à tous ceux dont les œuvres sont exécutées, sont utilisées, sont jouées. Et à côté de cet aspect de perception et de répartition, donc de gestion des droits, Nous avons aussi un rôle souvent ou trop souvent méconnu encore, c'est de soutien à la promotion artistique en Belgique. Très concrètement et très brièvement, nous soutenons chaque année des dizaines d'événements lorsque le répertoire belge qui y est joué est important, et ce de façon à le stimuler. Alors ça, ce sont des événements petits et grands. Un des derniers, par exemple, c'est les Francopholies de Spa, où nous sommes très très présents et très actifs financièrement depuis, depuis quasiment le début. Voilà, ça c'est en quelques mots ce que nous faisons.
D'accord, et est-ce que c'est exact de dire que la SABAM est aussi un dépôt, une manière de déposer, c'est-à-dire d'officialiser les œuvres, et c'est une manière, donc, de, quand on s'inscrit à la SABAM, de déposer une œuvre?
Alors, il faut préciser ce qui, bien souvent, est mal compris dans le public ou parfois chez les futurs auteurs-compositeurs. C'est un des moyens, mais il y en a d'autres. Je veux dire, il ne faut pas forcément être membre d'une société d'auteurs, la SABAM ou une autre.
Ça, on voulait y venir justement après.
Voilà.
C'est un petit peu pour ça qu'on va parler aussi des licences libres. Mais bon, la SABAM fait bien office de dépôt officiel, c'est-à-dire pour déposer une œuvre et pouvoir attester qu'elle vous appartient tout simplement. Oui.
Elle peut faire ça effectivement. Et en cas de litige, nous pourrons préciser, apporter des précisions en termes d'antériorité, etc. Enfin, de dater le dépôt d'une œuvre. Mais je le répète, vous pouvez très bien faire ça individuellement, vous adresser en quelque sorte par recommandé votre œuvre. Vous pouvez tout aussi bien utiliser les services d'un notaire. Vous pouvez, voilà. Mais la SABAM est un des moyens.
C'est un des moyens, voilà. Et est-ce qu'il est exact aussi de dire que vous protégez les œuvres ou comment cela se passe-t-il?
Alors là,
en cas de, par exemple, de litige justement, mais d'œuvre qui a été copiée, comment est-ce que vous intervenez?
Alors là aussi, c'est pas la SABAM qui protège les œuvres, c'est la loi. C'est la loi de 1994, la loi belge sur le droit d'auteur et les droits voisins. Et donc, c'est aussi un petit peu un leurre. Souvent, on dit « Ah, la SABAM protège », et parce que j'ai déposé, la SABAM me protège. Alors, c'est évident qu'il y a, les services, je dirais, d'une gestion collective, d'une société importante qui est très attentive à tout ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres possibilités.
Oui. On sait, j'allais y venir, que c'est l'OMPI, l'Organisme Mondial de la Protection Intellectuelle, qui, quelque part, protège les œuvres de manière tout à fait, on va dire, ça se fait d'office. Quand on est créateur, à partir du moment où on a fait un dépôt pour pouvoir officialiser effectivement que cette œuvre vous appartient, l'OMPI protège d'office dans tous les pays qui sont partie de la Convention de Berne, si je ne me trompe pas. On est protégé d'office. Mais vous avez quand même, je veux dire, des services pour cela comment ça se passe? Est-ce que vous avez des avocats prêts à intervenir quand il y a un litige de la sorte?
Alors, vous pouvez faire un dépôt classique, un petit peu comme dans le temps. La SABAM évolue, elle aussi, et c'est très bien, et elle évolue de plus en plus vite. Et nous venons, par exemple, de lancer, il y a quelques semaines, un système, pour nos membres évidemment, un système de dépôt en ligne qui est totalement gratuit, et qui permet justement, en cas de litige, d'attester d'un certain nombre de choses. Voilà. Maintenant, si vous parlez véritablement d'un litige, d'un plagiat, nous avons une commission musicale qui peut faire, un examen des choses, mais il faut savoir aussi que ce n'est jamais la SABAM qui va attester d'un plagiat, entre guillemets, mais c'est toujours un tribunal civil qui va le faire.
D'accord, c'est un peu la précision qu'on voulait avoir. Donc, quand on sait que, une œuvre est protégée d'office, on peut déposer, comme vous l'avez dit, on peut déposer de manière différente, le plus grand travail de la SABAM, c'est quand même donc de percevoir ces cotisations et de les rendre après aux auteurs, de les ramener aux auteurs. Et là, une question alors se pose tout de suite, c'est à qui rapportent réellement ces droits d'auteur? Quels sont les artistes? Comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que vous répartissez toutes ces contributions que vous prenez, que vous percevez?
Oui, alors il faut être très clair. Le droit d'auteur est une rémunération pour les œuvres qui sont diffusées, qui sont jouées. Donc si je veux simplifier, celui dont l'œuvre n'est jamais diffusée, n'est jamais jouée, eh bien il ne va pas toucher de droit d'auteur. Celui dont l'œuvre est beaucoup diffusée en radio, par exemple, eh bien ces œuvres-là seront rétribuées proportionnellement. Donc il y a cet effet de proportionnalité, donc il faut bien expliquer. Maintenant, pour ce qui est de la répartition, on pourrait en parler des heures, ça n'est pas une matière simple, mais il faut savoir qu'elle est excessivement réglementée en interne, contrôlée en externe, et il y a un certain nombre de paramètres, je dirais un cahier de charges à respecter. Et donc, si on prend les droits issus des médias, par exemple, les grands médias nous fournissent tous des programmes 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Autant dire que là, nous savons à la minute près ce qui est diffusé, ce qui est utilisé, et cela nous permet de faire une redistribution des droits, vraiment la plus adéquate. Voilà, ça c'est quand on a évidemment les programmes de façon précise. Lorsqu'il s'agit de festivals, par exemple, là aussi, pour peu, mais enfin c'est la moindre des choses, je crois, quand on aime la musique, quand l'organisateur nous fournit une playlist, ben, voilà, ça n'est pas très difficile de faire par la suite une redistribution exacte et correcte. Parfois, il arrive que ça n'est pas le cas. Et évidemment, se posent alors certains problèmes. Voilà.
D'accord. Et vous pensez que c'est proportionnel réellement ? Parce qu'il y a souvent des débats justement autour de ce fait. Et beaucoup de gens pensent que ce n'est pas réellement proportionnel à la diffusion. Oui. Que ce n'est pas assez proportionnel en tout cas. Oui.
Non, je peux vous assurer que le principe est celui-là. Maintenant, lorsqu'on sort des cadres qui sont, ou des exemples qui sont très éclairant, comme celui que je viens de dire. Toutes les grandes chaînes nous fournissent les playlists. Évidemment, on va tomber dans certaines catégories qui sont plus difficiles. Alors, les plus difficiles, et peut-être que d'autres vont en parler, d'autres intervenants, sont par exemple les radios locales. Il y a des grandes chaînes de radio locales qui nous fournissent les programmes. Il y en a beaucoup en Belgique qui diffusent beaucoup de répertoires, beaucoup de musique, qui n'ont pas la possibilité, alors que légalement elle devrait, mais enfin, de nous fournir les playlists de tout ce qui est joué ou diffusé. Et alors se pose le problème, que doit faire la SABAM ? Il faut rémunérer d'une façon ou d'une autre la diffusion d'œuvres. Et vous n'avez pas les playlists. Bon, alors vous pouvez pas faire ça comme ça, un petit peu à tire-larigot. Alors il y a eu pendant des années un système qui était un système de sondage pour ces petites radios, mais je répète, il y en a des dizaines. Il faut aussi relativiser un petit peu parce que globalement, dans le chiffre d'affaires général, cela représente quand même relativement peu. Ces sondages étaient effectués tantôt le lundi, puis une fois le jeudi, le vendredi. Et sur base de cette journée de programme, on faisait la répartition des droits de toute la semaine, par exemple, ou de tout le mois. Alors, il est évident que ça crée des frustrations dans un certain nombre de cas d'auteurs qui sont joués le lundi et votre sondage tombe le mardi. Bon, ça crée un problème. Il faut savoir que il n'y a dans le monde, je vais être très ferme là-dessus, il n'y a pas de système qui permette à 100% de faire une redistribution, idoine vraiment très, très, très pointue. Parce que peut-être que demain, la technologie nous y aidera. Ça, on y reviendra. Mais aujourd'hui, cela coûterait dans un certain nombre de cas, mais je répète, très limité, cela coûterait au service de la SABAM beaucoup plus cher que cela ne rapporterait aux auteurs, finalement. Parce que la SABAM représente les auteurs. Et donc, ça, c'est toujours tout le débat et toute la question. Maintenant, nous avons décidé d'abandonner ce système de sondage il y a quelque temps. Ça a d'ailleurs fait quelques remous. Parce que nous voulons nous focaliser demain, ça n'est pas encore décidé de façon, à 100%, mais nous voulons abandonner le système du sondage pour aller vers un système d'échantillonnage. Scientifiquement, c'est pas du tout la même chose. Il semble, selon les spécialistes, que c'est une méthode beaucoup plus précise. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est que nous voulons demain sélectionner dans le paysage radiophonique un certain nombre de radios, plus petites, puisque là se pose plus de problèmes, de radios dites représentatives de style de musique. Et là, nous voudrions bien leur fournir à ces radios, soit un software, soit un PC, soit bref, la machinerie nécessaire pour obtenir les données de façon précise et complète. Sur base de quoi nous ferons évidemment alors là la distribution à toutes les radios dans ce créneau. Ça sera beaucoup mieux. Je pense que tout le monde ne sera pas encore content. Mais nous sommes toujours partagés entre rémunérer au marc le franc et le coût que cela implique. Parce qu'il faut savoir que le coût est supporté par les membres, par nos 30 000 membres. Donc il faut garder là la plus grande justesse, la plus grande justice possible. Mais il faut savoir que nulle part dans le monde, il n'y a de système qui soit... Vous savez, en Belgique, on est... Et c'est bien comme ça, on est tous un peu comme ça, on veut avoir son dû au centime près. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cela ne se passe pas du tout comme ça. Aux États-Unis, on décide, une Cour suprême décide que l'année prochaine, ce seront les radios un tel de la côte ouest qui seront, comment dirais-je, qui serviront de base à la distribution de toutes les radios. Et c'est comme ça. Alors c'est peut-être un côté beaucoup plus business, mais c'est comme ça. Et puis l'année suivante, ce sont d'autres radios. Donc nous n'avons évidemment pas ce principe. Nous voulons essayer d'être le plus précis possible. Mais ce n'est pas toujours aisé.
D'accord. Est-ce que par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on a, nous, la possibilité de voir un peu ces répartitions, de découvrir ça? Est-ce que les comptes sont accessibles quelque part à la SABAM?
Alors, il faut savoir que le rapport annuel de la SABAM est un rapport extrêmement fourni, qui est contrôlé par de multiples sources. Nous avons un service de contrôle au ministère des Affaires économiques, mais c'est le FOD économie aujourd'hui, qui est là pour contrôler toutes ces données, pour voir l'adéquation entre les chiffres et l'application du règlement général. Bref, nous sommes excessivement contrôlés et j'ajoute, c'est très bien ainsi, parce que nous considérons que c'est une réponse, en tout cas, ou un argument excessivement important à l'égard de ceux qui, de temps en temps, nous critiquent. Donc ces chiffres sont connus, ils sont même sur notre site internet, le rapport annuel. Vous pourrez même y voir les tranches de perception. Voilà, en Belgique, nous avons l'an dernier X milliers de membres qui ont touché entre 0 et 1000 euros de droits d'auteur. Et puis vous voyez toutes les tranches. Les noms, évidemment, n'y sont pas mentionnés, mais ça, c'est pour des questions de respect de la vie privée.
D'accord, mais je pense que ça en rassurerait plus d'un. Effectivement, de lire ce rapport, d'une part, mais bon, il est copieux. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains. C'est un fameux rapport. Mais effectivement, ça rassurerait peut-être pas mal de monde de savoir à qui sont redistribués. Parce que je crois que c'est ça qui pose souvent polémique, c'est de savoir à qui sont redistribués réellement ces droits. Oui.
Si je peux encore, parce que je vais pas monopoliser le temps de parole. Mais nous avons aussi lancé, il y a quelques mois, sur notre site internet, une application qui s'appelle eFIN. Et e-licensing, d'autre part. E-licensing, c'est pour le grand public qui organise un événement, petit ou grand, et qui peut nous faire la demande en ligne. Mais eFIN, ça rejoint un petit peu votre question, permet aujourd'hui à tous nos membres, je répète, tous nos membres, les 30 000 membres de la SABAM, qui le souhaitent, de consulter en ligne, avec leur système de carte d'identité, donc c'est sécurisé, leur compte personnel. Alors leur compte personnel, c'est un petit peu, je dirais, leur compte en banque. Et contrairement à dans le passé où ils devaient attendre 6 mois ou 1 an avant d'avoir un décompte, aujourd'hui, ils peuvent consulter leur compte personnel et savoir à tout moment d'où viennent leurs droits, de quelle vente, de quelle diffusion, etc. Donc ceci, c'est dans un outil de transparence il y a peu de temps encore d'ailleurs.
D'accord, ben c'est un peu rassurant. Monsieur le AO, peut-être hein, quelque chose à...
Non, je dis simplement qu'effectivement, il y a peu de temps parce que je n'étais absolument pas au courant et que ça me plaît de savoir que ce genre d'initiative est là. Petite question aussi qu'on se posait quand même malgré tout avec les organisateurs des clubs plasma, c'est simplement quand est-ce que tout le répertoire se trouvera en ligne pour être bien sûr que quand on va remplir les déclarations justement de droits d'auteur pour la SABAM, qu'on puisse effectivement chaque fois pointer le bon auteur, le bon morceau, etc. pour être bien sûr que le bénéfice de sa prestation lui revienne en fait.
Alors depuis 1 an et demi, 2 ans, n'importe qui peut consulter le site. Il y a également une application qui permet à tout un chacun de vérifier si les droits d'auteur qu'il a payés pour un événement, si ces droits vont bien, si nous représentons bien les œuvres qui sont, dont on demande une rétribution. Vous avez un accès, et là il ne faut pas être membre, n'importe qui peut le faire, un accès à cette banque de données qui est excessivement important. Je parle de millions d'œuvres en Belgique et forcément des œuvres étrangères. Et vous pourrez très très simplement, il faut quand même un peu de patience parce que la recherche se fait chaque fois dans un répertoire mondial, voir si effectivement l'œuvre qui est jouée à ce moment ici est bien une œuvre protégée et auprès de quelle société, qui est l'auteur, qui est le compositeur de l'œuvre dont vous venez d'introduire le titre. Donc, alors, mais pour répondre plus précisément à votre question, il est certain que quand je parlais tout à l'heure de quitter ou d'abandonner le sondage pour aller vers un système d'échantillonnage, l'idée que nous avons en tête, c'est effectivement de pouvoir faciliter le travail, notamment des organisateurs, et de leur permettre d'avoir des documents sur lesquels ils peuvent plus facilement pointer. Mais il faut bien se rendre compte, c'est plus vite dit que fait. C'est comme mettre à disposition la banque de données mondiale des œuvres. Ça a demandé énormément de temps parce qu'on parle de répertoire mondial. Et donc, vous devez avoir les accords de réciprocité avec les dizaines de sociétés d'auteurs dans le monde qui doivent accepter de donner une information, j'allais dire librement et ouverte. Maintenant, je crois que beaucoup de sociétés d'auteurs dans le monde sont conscientes et veulent un souci de transparence et que donc ça se fait. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup à la SABAM ces derniers temps.
Apparemment, oui. Ben, c'est assez rassurant d'entendre ça. On se réjouit d'en voir les réels fruits, on va dire. Maintenant, je vais en venir un petit peu à l'autre partie du débat qui nous intéresse. C'est ben, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, si un artiste donc finalement est peu diffusé, s'il a le moyen de pouvoir lui-même déposer et officialiser son œuvre. Il peut aussi prendre une licence et donc s'affranchir quelque part de la SABAM et de fonctionner avec ses licences libres. On le comprend fort bien, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un artiste qui n'a pas encore vraiment beaucoup de diffusion n'a pas nécessairement un intérêt direct à venir s'inscrire à la SABAM. Donc il peut utiliser par exemple la licence Creative Commons. Est-ce que vous, justement, vous, en tant que, on va dire, représentante ici du Creative Commons, mais du CRID, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces licences par rapport à cette utilisation,
ouais. Ok. Alors, je vais peut-être décrire un peu plus, de manière un peu plus large, ce que sont les licences Creative Commons et l'intérêt que ça peut avoir pour les auteurs. Donc, les licences Creative Commons, c'est un système en ligne, donc au départ, d'un point de vue tout à fait pratique, c'est un site internet creativecommons.org qui permet aux auteurs de se créer une licence. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que à défaut d'une indication sur votre œuvre, donc si vous créez par exemple un morceau de musique et vous le mettez sur internet, vous n'y attachez même pas votre nom, vous n'y mettez pas de mention de l'auteur, vous n'y mettez pas de mention de copyright ou quoi. Cela ne veut pas dire que votre œuvre est en libre accès. Au contraire, ça veut dire qu'elle est protégée. Et ce qui se promène sur Internet, ce qui a l'air d'être simplement accessible et utilisable, n'est pas non protégé. Au contraire, on ne peut rien faire avec. C'est comme ça le droit d'auteur, c'est que ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Et donc ça, indépendamment de la mention d'un copyright ou du nom d'un auteur ou quoi. Donc en tant qu'utilisateur, quand vous voyez des œuvres se promener sur Internet ou quoi, sans indication d'auteur, sans copyright, etc., il ne faut pas croire que c'est en libre accès. Au contraire, vous ne pouvez rien faire contre cela. Vous ne pouvez rien faire avec cette œuvre. Alors, la position des auteurs, donc en vis-à-vis la position des auteurs, c'est de se dire, ok, moi j'ai envie de mettre mon œuvre à disposition parce que je trouve qu'Internet permet maintenant des systèmes de création collaborative, des systèmes de remix, des systèmes d'œuvres dérivées que le système du tangible ne permettait pas. Et donc j'ai envie de mettre mon œuvre à disposition d'Internet pour permettre à tout autre musicien, par exemple, de sampler des passages, ou à ma poésie pour permettre à d'autres de la disperser ou au contraire de la modifier. Et donc j'ai envie de permettre ça, mais comment faire pour autoriser à tout le monde la réutilisation de mon œuvre, sachant que, a priori, ce que je n'autorise pas est interdit. Comment faire pour autoriser ? Alors voilà ce que Creative Commons propose. C'est un système de... C'est un peu comme une toolbox, comme ça. Un système très simple qui permet aux auteurs, en quelques clics, de mettre une licence sur leur œuvre, en fait. Et donc d'autoriser les utilisateurs à en faire ce qu'ils veulent bien, ce que l'auteur veut bien qu'on en fasse. Et cela permet donc de lâcher son œuvre sans... De permettre une utilisation de son œuvre sans non plus la lâcher dans le domaine public, avec les risques que ça peut impliquer. Par exemple, vous avez une belle chanson que vous avez composée, vous la mettez sur Internet, vous avez envie qu'elle soit utilisée, qu'elle soit rediffusée par tout un chacun de manière tout à fait libre, qu'elle soit même modifiée. Mais vous n'avez pas envie que quelqu'un en fasse des copies et qu'il les vende, par exemple. Donc comment faire pour dire « oui, je veux bien que, mais je ne veux pas que ». Et donc ces licences Creative Commons permettent, en quelques clics, d'attacher une licence à votre œuvre qui vous permettra de dire « ok, vous pouvez tout faire avec, mais je veux que vous mentionniez toujours mon nom ». Donc si vous réutilisez, vous pouvez réutiliser gratuitement, faire des copies, downloader, uploader, vous pouvez vraiment diffuser autant que vous le voulez, mais je veux que vous mentionniez toujours mon nom, donc ça c'est une bonne chose. Je ne veux pas que vous en fassiez une utilisation commerciale, c'est ça aussi que les licences Creative Commons permettent. Et je ne veux pas que vous la modifiez, ou au contraire, je veux bien que vous la modifiez. Et si je veux bien que vous la modifiez, et c'est là le côté quelque part un petit peu magique, voire militant des Creative Commons, et qui est inspiré de la GPL et de l'open source, c'est que vous avez aussi la possibilité de dire, si vous utilisez mon œuvre pour refaire une autre œuvre, je veux que votre autre œuvre soit elle-même licenciée sous Creative Commons. Donc, que votre œuvre à vous, qui est bâtie sur la mienne, soit diffusée dans des termes aussi libertaires, quelque part, que mon œuvre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la viralité, la contamination des licences open source, open access, qui permettent aussi, quelque part, de faire la promotion d'un modèle en provoquant sa contamination d'œuvre en œuvre qui utilise les œuvres préexistantes. Alors voilà, l'intérêt, donc, pour revenir à cette question, maintenant qu'on a un petit peu décrit, le système Creative Commons, pour revenir à votre question, effectivement, ça vous rend quelque part, ce système vous rend quelque part autonome dans la politique de diffusion que vous désirez avoir pour votre œuvre. Donc vous ne vous en remettez plus à cette énorme institution. C'est cette institution qui peut vous sembler énorme quand vous êtes un auteur débutant, qui est la SABAM, qui peut parfois vous sembler peu transparente, etc. Simplement, en quelques clics, vous attachez une licence à votre œuvre, vous la mettez sur Internet, et donc vous restez quelque part, vous avez la main mise sur votre œuvre, c'est vous qui en déterminez l'exploitation, entre guillemets. Il faut pas attribuer au mot exploitation une connotation lucrative. C'est vous qui êtes maître de sa diffusion, on va dire, à titre commercial ou non. Le problème, c'est que, à l'heure actuelle, c'est qu'on a un système de tout ou rien. C'est-à-dire que les auteurs qui voudraient recourir à ce système de licence Creative Commons est à ce jour obligé de renoncer à son affiliation à la SABAM, parce que lorsqu'un auteur s'affilie à la SABAM, il confie à la SABAM le mandat de gérer toutes ses œuvres existantes et à venir durant toute la durée de son affiliation à la SABAM. Ça veut dire qu'un auteur qui est affilié à la SABAM n'a plus aucune autonomie, aucun pouvoir de décision quant à ce qu'il peut faire de son œuvre. Il ne peut donc plus décider lui-même de mettre son œuvre en libre accès, de l'exploiter comme ceci, de l'exploiter comme cela, de se créer un petit site pour y mettre son œuvre. C'est la SABAM, et uniquement la SABAM, qui a la capacité de gérer l'exploitation de ses œuvres. Alors c'est vraiment un problème parce que effectivement donc ce système de la SABAM est tout à fait favorable aux auteurs et c'est tout à fait pratique pour les auteurs qui ne doivent plus courir après tous les utilisateurs de leurs œuvres pour leur demander des royalties, c'est la SABAM qui s'en charge. Mais maintenant ce qu'aimeraient bien les auteurs, c'est que grâce à ces nouveaux systèmes de diffusion des œuvres que sont internet et la société de l'information, c'est de pouvoir essayer de trouver un système qui leur permette tout en restant affiliés à SABAM vu les nombreux avantages que cela a pour eux, de pouvoir aussi faire usage de ces nouvelles technologies de manière à pouvoir mettre en œuvre des nouveaux systèmes d'exploitation des œuvres, des nouveaux systèmes de diffusion beaucoup plus, je vais dire, modernes et permis par Internet. À savoir, par exemple, typiquement, moi je ne suis pas connue, j'ai au contraire tout intérêt à mettre mes œuvres en accès gratuit sur Internet parce que ça me fait de la promotion, quitte à essayer de me faire découvrir par des producteurs ou essayer de trouver un système de financement de la production via Internet, etc. Quitte à éventuellement après signer avec un producteur ou quoi, mais j'ai tout à gagner finalement à passer par un système de gratuité d'accès à mon œuvre pour gagner à être connu. Alors pour le moment, au niveau international, les sociétés collectives sont regroupées au niveau d'une fédération des sociétés collectives, on va dire ça comme ça, qui s'appelle la CISAC, et qui est en train de discuter avec l'association Creative Commons, donc au niveau international, d'un système qui permettrait de la cohabitation entre cet ancien système des sociétés collectives et ces nouveaux modes d'exploitation individuelle et ouverts que permettent les Creative Commons. À ce stade, on en est encore au niveau des pourparlers. Il faut dire que c'est effectivement, peut-être que notre ami de la SABAM nous expliquera à quel point ça peut être fastidieux pour une société collective de gérer son répertoire en pouvant distinguer quelles œuvres de quels auteurs sont en accès libre et lesquelles ne sont pas, de manière à pouvoir réclamer les royalties là où ils peuvent les réclamer et non pas à ceux qui sont en accès libre. C'est extrêmement compliqué parce que ça demande de faire des sous-catégories, hein, des sous-catégories au niveau du répertoire de la SABAM. Et si on a cette sous-catégorie là, c'est-à-dire ceux qui sont en Creative Commons, ceux qui ne le sont pas, pourquoi pas d'autres sous-catégories, etc. Et bref, le travail de la SABAM peut se révéler finalement extrêmement fastidieux. Donc on essaye de trouver des systèmes qui permettront quand même de marier les deux. Et il y a déjà en Hollande l'équivalent de la SABAM. Synthétiquement dit, l'équivalent de la SABAM au niveau hollandais a passé un accord avec, s'est entendu avec Creative Commons Hollande, le Creative Commons hollandais, de manière à expérimenter un système de cohabitation entre l'affiliation à la société collective et l'utilisation par ses membres en parallèle de licences Creative Commons. Donc ils sont là depuis 2008, un test. De manière à voir ce que ça donne, si c'est gérable, si finalement les auteurs en sont contents. Et donc effectivement, donc en Hollande à l'heure actuelle, pour le moment, un auteur qui s'affilie à l'équivalent de la SABAM a la possibilité de cocher dans son répertoire les œuvres qu'il désire mettre en Creative Commons sur Internet en accès libre, de manière à ce que la SABAM, et l'équivalent de la SABAM en Hollande, n'aille pas réclamer à ceux qui jouiront de cet accès libre des royalties, alors que l'auteur a voulu au contraire permettre une écoute gratuite.
Voilà. D'accord, oui. En résumé, donc, si effectivement on prend une licence Creative Commons, on ne peut pas toucher de droits d'auteur. Voilà, on peut commercialiser, on a une large diffusion qui est possible, mais on ne peut pas toucher de droits d'auteur.
Oui, c'est effectivement le principe du libre. Effectivement, c'est le principe du libre, c'est de mettre à disposition son œuvre sans toucher de royalties, donc sans faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.
D'accord. Monsieur Dachelet, vous vouliez répondre quelque chose.
Oui, je souhaiterais apporter un éclairage un petit peu plus différent de ce que madame vient de dire. Ça ne l'étonnera pas. Mais il est vrai qu'un auteur qui n'a aucun intérêt, aucune ambition directe de diffuser ses œuvres avec l'ambition d'en récolter quelque chose sur le plan financier, ma foi, je peux comprendre très bien la démarche de dire bon, j'utilise des Creative Commons. Dès lors que vous êtes auteur-compositeur et que vous dites tiens, j'espère avoir un certain succès, je vais diffuser un petit peu là ou là, bon, essayez de se lancer dans une une carrière petite ou grande, il est évident que le système Creative Commons ne va pas vous le permettre et qu'une société de gestion collective va à ce moment-là jouer pleinement le rôle qui est le sien, c'est d'aller percevoir et de répartir. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'affilie à la SABAM a déjà la possibilité de faire un choix multiple. C'est-à-dire qu'il peut très bien dire « je m'affilie à la SABAM pour certains types de droits et pas pour d'autres types de droits ». Je m'affilie pour la Belgique et pas pour où j'exclus tel ou tel pays. Donc il y a déjà aujourd'hui des possibilités. Mais il faut bien se rendre compte, et il ne faut pas être grand technicien pour cela, c'est que vous choisissez à un moment donné soit pour un système qui est vraiment individuel, qui est le Creative Commons, les licences libres, soit vous choisissez, vous faites le choix libre d'opter pour un système de gestion collective. Alors vous avez aujourd'hui déjà cette possibilité de faire certains choix un petit peu à la carte, mais si vous détricotez complètement le système collectif, bah vous arrivez évidemment au système individuel. J'attire aussi l'attention, c'est que sur le fait que si vous lancez une œuvre sur le net avec les Creative Commons, et sauf erreur de ma part, sinon je vous demanderai de me corriger, et que cette œuvre, dès demain, a un succès mondial, eh bien, j'allais dire, tant mieux et tant pis. Parce que tant mieux pour vous, parce que vous serez d'une grande renommée, tant pis parce que vous ne toucherez pas un cent. Et donc, il ne s'agira pas à ce moment-là de revenir avec cette œuvre dans un système collectif en disant « Ah, maintenant je vais me faire membre d'une société de gestion collective et je viens avec cette œuvre-là ». Donc, ça c'est évidemment un petit peu la difficulté, mais je crois que dès le départ, il faut qu'un auteur réfléchissent un petit peu à quelles sont ses ambitions, ses envies dans ce domaine. Maintenant, il est vrai qu'au niveau international, il y a des pourparlers par rapport aux licences libres, au plus haut niveau, pour voir comment il y a peut-être moyen, dans un certain nombre limité de cas, de faire certaines adaptations. Mais aujourd'hui, au niveau de la SABAM, ce n'est pas le cas. Ce sont deux approches complètement différentes.
Oui, Caroline, vous voulez réagir peut-être par rapport à ça et donner une précision?
Oui, merci.
Ou l'autre.
Du point de vue du modèle économique qui sous-tend la mise en accès libre d'une œuvre, on peut aussi élargir le cadre et effectivement considérer qu'on va peut-être sacrifier une œuvre qui effectivement sera mise en accès libre et pour laquelle, si c'est un succès, on ne toucherait effectivement peut-être pas beaucoup d'argent. Mais si on élargit le cadre, on aura par contre gagné une notoriété qui pourra évidemment être très avantageuse financièrement pour les morceaux suivants. Et même à la limite pour ce morceau-là, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs groupes. Bon, évidemment, ils sont connus. Il y a le Beastie Boys, Nine Inch Nails. Il y en a d'autres qui ont mis, ou Radiohead a mis aussi son dernier album en accès libre pendant un mois. Tout le monde a pu le télécharger. Et après ça, ils ont coupé les vivres. Mais après, les gens ont continué à acheter l'album. Et Nine Inch Nails, apparemment, aurait vendu beaucoup plus d'albums de son dernier album qu'il avait mis en accès libre que de ses albums précédents. Donc finalement, l'open source, l'open access n'est pas du tout un modèle financièrement non rentable. Il suffit de regarder, bon c'est peut-être une analogie assez rapide, mais il suffit de regarder au niveau du logiciel libre. C'est une entreprise, enfin c'est un secteur économique florissant qui n'est effectivement peut-être plus basé sur les droits d'auteur, mais qui peut être basé sur d'autres choses, tels que les services, etc. La fondation Mozilla ne sait plus quoi faire de son argent, pratiquement. Donc il faut effectivement, dans la pureté des pratiques, voilà, tel morceau rendu en accès libre peut-être, a priori, on va peut-être perdre de l'argent d'un côté, mais le pari n'est pas nécessairement un pari perdant, et on voit que dans certains cas, mais ça demande à être nuancé, évidemment, ça dépend du type d'œuvre, du type de notoriété qu'a déjà l'artiste ou quoi, c'est pas nécessairement un pari perdant, quoi, et on le voit à l'heure actuelle, pour le moment, le libre a vraiment réussi à creuser son trou dans un monde très très très, enfin, très capitaliste, quoi. Il a tout à fait sa place, il crée beaucoup d'emplois et il crée beaucoup de valeur ajoutée, quoi. Voilà. Merci.
Oui, ça n'exclut que les droits de diffusion finalement, mais ça n'empêche absolument pas donc de se commercialiser, même de se faire connaître plus facilement, puisque voilà, on a beaucoup plus d'amplitude au niveau de la diffusion. Monsieur Dashley, oui.
Oui, je voudrais quand même fortement nuancer cela, parce qu'on prend un exemple ou deux, et il y en a évidemment, et il ne faut pas faire une généralité. On sait tous que sur Internet, aujourd'hui, ce qui est un moyen de diffusion extraordinaire, ça, personne ne le conteste. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire aussi qu'il s'agit d'une jungle, aussi par rapport à tout ce qui s'y passe. Et je vais citer qu'un seul exemple pour qu'on se rende bien compte aussi de quoi on parle. La SABAM a perçu en 2009, une année en demi-teinte, puisque quand même un recul de près de 10% du chiffre d'affaires, après une autre année qui n'était pas tellement bonne non plus. Nous avons perçu à peu près 200 millions d'euros sur base annuelle. Sur un peu moins de 200 millions d'euros sur base annuelle, nous avons également perçu des droits pour les téléchargements légaux, donc payants, en Belgique, je précise, en Belgique évidemment, sur des sites du style iTunes, qui est une grosse partie des revenus. Eh bien, cela représente 1 400 000 euros de droits d'auteur. Alors, bien sûr, le numérique, je crois qu'on ne reviendra jamais au CD, personne ne veut revenir au CD d'il y a 20 ans. Et donc, c'est vrai que le numérique est très probablement l'avenir, mais il faut cesser de croire que c'est la panacée universelle, ou en tout cas, que dès demain, cela va compenser les énormes pertes causée par la chute du CD, et je ne suis pas nostalgique en disant ça, c'est uniquement un constat, et donc il faut s'imaginer la perte aujourd'hui des auteurs-compositeurs, puisque, je répète, 1 400 000 euros de droits perçus pour le en ligne en Belgique, c'est-à-dire excessivement peu, je n'ose pas dire des cacahuètes, mais c'est très très peu. Alors, bon, dire on lance sur le net et puis on verra bien et c'est de la notoriété, bah oui, tout peut être de la notoriété à un moment donné, mais je dis attention, ne faisons pas une généralité de quelques cas, parfois d'artistes connus qui en font des coups publicitaires.
Quand même, dans ce domaine, on parle de la chute du CD, ça concerne plutôt les producteurs, moi je pense, que les artistes.
Et oui, mais quand je parle des droits d'auteur,
un artiste peut quand même effectivement se vendre aussi sur le net de lui-même. Il peut le faire plus facilement quand même avec une licence Creative Commons qu'en étant inscrit à la SABAM. Il faut quand même mettre aussi les choses à leur place à ce niveau-là.
Moi,
je vais prendre un exemple à ce niveau-là. En musique libre, on a un site comme Diamendo. Il y a 30 000 albums inscrits sur Diamendo et c'est visité. Il y a des visites tous les jours. Je crois qu'ils en sont à quelque chose comme 17 000 visites par mois, ce qui est quand même assez énorme. Donc, ça n'empêche pas. Maintenant, il faut faire effectivement bien son travail à ce niveau-là, travail promotionnel par le net, mais c'est possible. Je me permets de remettre ça.
Moi, je cite des chiffres.
Oui, d'accord. Mais moi aussi, là, j'en citais un petit peu pour dire que le net permet aussi une très, très, très large diffusion. Il y a des MySpace en Creative Commons qui sont tout aussi visités que MySpace sous copyright.
Oui, mais quand vous parlez MySpace, l'objet du débat n'est pas le téléchargement illégal, etc. Mais on peut parler de YouTube. D'aucuns vont considérer que c'est un formidable moyen de promotion et on ne le conteste pas. Ben, nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça que nous avons une action en justice à leur égard depuis 3 ans, parce qu'on tire les auteurs-compositeurs en bouteille et que Google ne veut pas payer le moindre cent pour la diffusion des œuvres sur YouTube. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la problématique de YouTube, et encore une fois la SABAM, dans les actions qu'elle mène, n'est pas opposée du tout aux nouvelles technologies, oui. N'est pas opposée à la diffusion sur le net. La seule chose qu'elle dit à tous les exploitants de ces œuvres, de répertoire belge et local, c'est de dire il faut que vous payiez quelque chose pour l'utilisation sur vos réseaux. Regardez aujourd'hui ce que Belgacom et Telenet lancent comme opération commerciale. Bah, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, pour 10 euros en plus, supplémentaires, en plus de votre abonnement, vous pouvez télécharger de façon illimitée. Bah, le client, qu'est-ce qu'il pense? C'est légal. Or, ça ne l'est pas, toujours. Et vous pouvez télécharger tout et n'importe quoi, mais ils vous le font payer en supplément. Et savez-vous que malgré les 10 euros, les 8 euros, enfin peu importe, les auteurs-compositeurs ne touchent pas un cent.
Ils nous vendent les routes, ils nous vendent pas le contenu, ils nous vendent juste les routes pour accéder à un contenu.
Mais ça c'est
autre chose. On paye les routes bien pour aller sur YouTube qui ne paye pas ses droits comme vous le disiez,
oui.
Aussi bien que pour aller chercher n'importe quoi d'autre sur Internet.
Mais ça c'est l'argument. Oui.
C'est pareil avec des CD. On paye sur les CD une taxe pour le support et qui va aux sociétés de droits d'auteur. Peu importe ce qu'on y grave de la musique qui soit comme.
Mais je comprends votre argument. C'est l'argument généralement utilisé depuis des années par les fournisseurs d'accès qui nous disent nous on vend des tuyaux et nous ce qui passe dessus ça nous intéresse pas, et ils se retranchent en cela derrière la directive européenne e-commerce qui date de Mathusalem, enfin du début de l'internet je veux dire. Alors c'est vrai qu'à l'époque les fournisseurs d'accès avaient un rôle passif, tout ça était neuf, mais aujourd'hui la SABAM considère que ces fournisseurs d'accès n'ont plus du tout un rôle passif. La preuve, ils commercialisent leurs tuyaux au débit avec quoi? Si vous vendez un tuyau au débit avec rien dedans, ça vous intéresserait moins. Donc aujourd'hui, vous avez un tas de choses. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que tout ce qui passe sur les tuyaux ne sont pas forcément du répertoire protégé. Là, on est d'accord. Et nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait bien que les fournisseurs d'accès viennent négocier avec nous et qu'il y ait un cadre législatif, comme avec les câbles distributeurs d'ailleurs, une licence collective obligatoire, qui fasse en sorte que ceux qui utilisent aujourd'hui depuis des années et qui le commercialisent, je répète, sans nous rétribuer quoi que ce soit, eh bien, soit contraint à venir négocier avec nous sur des bases objectives. Qu'ils nous disent ce qui passe sur les tuyaux. Qu'ils nous disent ce qui se passe avec la musique que nous représentons, les films que nous représentons, les photos que nous représentons. Bref, le matériel de plus de 30 000 membres belges.
Je voulais intervenir par rapport à ça, dans le sens où... Effectivement, quand un fournisseur d'accès demande 10 € supplémentaires ou quelle que soit la somme pour avoir le full téléchargement, effectivement, ça permet de téléchargement illégal de choses qui sont mises en vente. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où un artiste choisit de faire protéger ses œuvres par une association, enfin par une institution comme la SABAM, il fait son choix. Il participe financièrement aussi à la SABAM, donc il est protégé. Donc je considère qu'on n'a pas à les taper dans sa caisse. Et d'un autre côté, le fournisseur d'accès qui demande 10 € supplémentaires pour avoir du full téléchargement, ben la personne qui fait du téléchargement légal, donc qui ne télécharge que des licences libres, il a quand même filé 10 € à une autre entreprise pour choper cette musique libre. Donc c'est le fournisseur d'accès qui va se faire du pognon sur le dos du mec qui veut simplement gratuitement. Donc à un moment donné, c'est un choix. Il y a des artistes qui font le choix de ne pas aller à la SABAM. Ce choix est respectable. Il y a des artistes qui font le choix d'aller à la SABAM. Et ce choix, pour moi, est tout aussi respectable. Et je pense qu'à partir de là, on peut simplement se dire, bon, bah, à partir du moment où il y a... Enfin, c'est purement légal. Enfin, l'idée de dire télécharger illégalement quelque chose... Alors, je ne vais pas jouer l'angélique, hein, j'arrête pas de le faire. Mais c'est du vol. Mais ça, on est... quelque part. Et je pense que qu'on soit artiste affilié à la SABAM ou qu'on soit artiste en Creative Commons, on est artiste, quoi. C'est juste un choix. Et je pense que quand on est fan d'un artiste, on peut aussi respecter les choix qu'il a fait. Voilà. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça.
Avant de faire réagir un petit peu le public, s'il y a des questions, d'autres remarques, peut-être une... quand même faire participer un petit peu notre invité.
Effectivement, moi je ne suis pas tout à fait spécialisé justement dans les droits d'auteur.
Joël, donc de l'atelier rock. Donc là, on est plutôt dans le domaine du spectacle, hein. Mm-hmm. Mais tu as été également membre d'un groupe, donc j'imagine que tu es sans cesse en contact avec des groupes. Est-ce que ces problématiques-là, elles sont importantes? Est-ce que dans les artistes que tu croises, est-ce que c'est quelque chose qui, même si vous faites plutôt du spectacle, est-ce que vous vous occupez de questions comme ça aussi ou pas?
S'occuper de ces questions particulières avec les artistes, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on met un point d'honneur, je veux dire, quand on organise des concerts à l'Atelier Rock, de remplir correctement nos fiches SABAM, parce qu'on veut absolument que les artistes soient rémunérés pour le travail qu'ils font au jour le jour. Ceci étant, il y a tout de même depuis quelque temps quelque chose qui a fait son apparition justement dans le cadre des organisations de concerts, qui existe depuis déjà un bon petit moment, mais dont on a aperçu la vie il y a peu. Ça s'appelle la rémunération équitable, Et en fait, il s'agit en gros de droits voisins. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est simplement, je veux dire, quand il y a une diffusion normalement mécanique, c'est-à-dire un CD, enfin n'importe quelle diffusion mécanique, je veux dire, pendant un spectacle, donc on est censé rétribuer les producteurs et les interprètes des CD en question. Mon gros problème par rapport à ça, c'est que, tout en sachant, je veux dire, qu'il y a une taxe qui est prélevée par cette rémunération équitable, il n'y a aucun suivi, je veux dire, au point de vue de la traçabilité des morceaux qui sont diffusés pendant les soirées. Et donc, à peu de choses près, je veux dire, la rémunération équitable encaisse de l'argent et ne redistribue rien à personne. Donc là, je présume que la SABAM a aussi, je veux dire, des idées par rapport à ça. Mais ça, c'est clair que c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas vraiment quelqu'un de la rémunération équitable ici qui aurait pu en parler de manière un peu plus concrète. Déjà aussi, de toute façon, sur le fait aussi que j'estime de toute façon que un producteur qui fait déjà une opération commerciale, qu'il touche quelque chose d'un équivalent d'un droit d'auteur, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Alors, pour ce qui est effectivement de ma perception, je veux dire, en tant qu'auteur-compositeur, c'est clair que j'ai pris, moi, l'initiative de m'inscrire à la SABAM parce que, à un certain moment, j'ai essayé de diffuser ma musique le plus largement possible, j'ai essayé d'atteindre les médias, et que, d'un autre côté, si je sais que je peux avoir un retour financier par rapport à ça, parce que, comme tout le monde le sait, de toute façon, les artistes, surtout ici en Belgique, ont de grosses difficultés pour vivre de leur musique, donc, un franc est un franc, un cent est un cent, voilà, donc, effectivement, donc, au moment où je l'ai fait, évidemment aussi, tout ce qui était médias, informatique, etc., je veux dire, n'était pas encore vraiment d'application, donc peut-être que j'aurais d'autres envies, d'autres possibilités à l'heure actuelle.
On peut peut-être faire un petit tour des personnes qui ont participé à qui ont suivi un petit peu la discussion. Est-ce qu'il y a éventuellement encore d'autres d'autres questions? Ok.
Je voudrais juste vous dire que ici en face, nous avons installé une borne de téléchargement de musique libre et que nous offrons aux 40 premières personnes un CD pour que ces gens puissent graver la musique de leur choix et que nous avons acheté les CD et que sur le prix de ces CD, la SABAM va recevoir 40 fois 12 cents et nous vous offrons les 12 cents gracieusement.
Merci. Oui, je voulais poser une question. En fait, quand on parlait des droits d'auteur tout à l'heure par rapport aux producteurs, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu entends exactement par producteur ? Est-ce que c'est la personne qui a financé le produit ou est-ce que c'est le producteur dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire celui qui a participé à le créer ?
Non, c'est pas le producteur artistique, hein, c'est le producteur financier qui est rémunéré par la rémunération équitable, ainsi que le premier interprète, c'est-à-dire celui qui crée la chanson, en quelque sorte. Ce qui veut dire aussi que, objectivement, dans ce cadre-là, c'est surtout les gros interprètes qui vont toucher, c'est-à-dire des gens comme Johnny Hallyday, par exemple, qui n'a jamais écrit une ligne de sa vie, qui va gagner beaucoup d'argent par rapport à ça. Et de nouveau, ça me gêne.
Ok.
Je pense qu'on va conclure cette discussion en remerciant nos invités. Donc, juste rappeler peut-être qui était parmi nous.
Donc, nous avions Monsieur Dashley qui représentait la SABAM. Merci d'être venu. Joël Ao, donc de l'atelier Rock, et Caroline Kerr, du CRID. Voilà. Et moi, je crois qu'on va conclure ce débat là-dessus pour dire que l'artiste a toujours le choix. Voilà, il n'est pas obligé de s'inscrire à la SABAM, soyons bien clairs, et c'est fort heureux, comme il peut s'inscrire en licence libre et s'auto-promouvoir, se vendre lui-même, effectivement, par le net. Et tout est possible à notre époque. Mais j'invite, moi, principalement les jeunes artistes à découvrir le Creative Commons, parce qu'ils auront de la diffusion, ils pourront se diffuser facilement, ils n'ont absolument pas besoin, voilà, quand ils sont jeunes artistes, en tout cas, de s'inscrire à la SABAM. Ça viendra peut-être plus tard. S'ils commencent à être largement diffusés et qu'ils veulent toucher des droits d'auteur sur les diffusions, alors ils s'inscriront à la SABAM. Mais je pense que on va tous être d'accord pour dire que ce n'est pas une nécessité première de s'inscrire à la SABAM. Il faut d'abord faire de la musique, d'abord s'entraîner et se promouvoir et se diffuser. Et pour ça, ben, le Creative Commons est effectivement une très belle solution.